marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà in cammino ci illuminerà. Non sapevo qual
è. Il est midi sur Prune, l'heure de se réchauffer les mains autour d'un feu de joie. Siam Otutex part à la rencontre des milieux solidaires qui font vivre à leur manière la lutte contre le fascisme. Nous sommes tous antifascistes. Un cri inclusif de rage et d'espoir. Le cri d'une foule puissante de personnes qui agissent chaque jour pour créer des liens et des solidarités. Et c'est à elles que nous tendons notre micro toute l'année. Pour se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la lutte flamboiera tant qu'il le faudra.
Salut tout le monde, bienvenue dans Siam Otutex, l'émission toute exaltée qui vous emmène en voyage antifasciste en bas de chez vous. On vous l'expliquait dans l'émission d'introduction le mois dernier, ce qu'on aime dans Siam Otutex, c'est écouter des gens nous parler de leur façon de lutter contre les idées d'extrême droite au quotidien, de faire lien, d'apporter de la nuance, de s'organiser et lutter pour leurs droits, tout ça avec de la force et de la joie. On est donc parti aujourd'hui pour une nouvelle épopée, toujours en compagnie de Louise, Céleste et Nora et moi-même Lilian en plateau, et Héloïse et Léo à la technique. Salut les copaines, ça va aujourd'hui ?
Salut,
ça va bien ?
Coucou.
Ici à Siam Otutex, on parle de lutte contre la montée du fascisme et de comment cette lutte peut être quotidienne et exaltante. Mais avant de passer au sujet de cette émission, on voulait revenir sur des choses dites lors de la dernière émission. C'est la chronique introspection, la chronique des doutes, la chronique des petits ratés, mais qu'on a envie de vous partager. Louise, Céleste, qu'est-ce que vous vouliez préciser ?
Pendant la première émission, on s'est toutes présentées au micro. On s'est situées sur l'échelle ou la roue des privilèges. Vous pouvez faire l'exercice chez vous en cherchant roue des privilèges sur Internet. Par exemple, moi j'ai dit que j'étais une meuf blanche, valide et diplômée d'une grande école. On l'a fait presque par réflexe, parce que c'est un exercice qu'on connaît. Et on a toutes dit plus ou moins la même chose. On a des profils qui se ressemblent beaucoup. Quelques jours plus tard, on se retrouve dans mon salon pour faire le bilan de la première. Et Louise, tu te sentais mal à l'aise avec l'exercice. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Effectivement, je vous ai suivie dans cette présentation en me présentant comme mi-métisse, mi-classe moyenne, en essayant de me situer du coup par rapport à mes privilèges. Et ça m'a mis très mal à l'aise puisque je l'ai ressenti comme un étalage de privilèges saupoudré d'une grande culpabilité. Je pense qu'au fond, j'en ai pas saisi le but. Surtout que j'ai pu le percevoir comme une compétition de nos privilèges ou de nos non-privilèges. Dans les deux cas, ça m'a dérangée. De plus, qu'est-ce qu'un capital culturel ? Est-ce qu'on est en train de dire que les personnes qui n'ont pas eu accès à la culture dominante n'ont pas de capital culturel ? Bref, je pense que d'ouvrir le débat sur ce sujet était important.
Et j'étais super contente que t'en parles parce que, alors que je trouve l'exercice important, on l'avait ni contextualisé ni problématisé. Du coup, on a décidé de faire une chronique sur cette histoire de privilèges. D'une part pour vous montrer les coulisses de l'émission, on tâtonne, on se trompe, on revient dessus. Et d'autre part, pour que vous qui écoutiez, vous puissiez aussi vous saisir de ce concept. En gros, on fait tous partie du monde social qui a ses codes et ses règles. Ce monde social, il est régi par des axes de discrimination et d'oppression. Qu'on se situe d'un côté ou de l'autre, modifie notre rapport au monde, aux autres, à soi, mais aussi à l'argent, au travail, au logement, à la culture, etc. Pour être précise et exhaustive, on devrait y consacrer une émission entière, mais par exemple... Le rapport à l'école, c'est un axe. Avoir fait des études post-bac, c'en est un aussi. L'axe racial est primordial, comme l'axe sexiste ou l'axe validiste, qui discrimine les personnes considérées ou rendues handicapées par le monde capitaliste. Bref, on est tous traversés par ces biais et on ne part pas avec les mêmes chances dans la vie. Et oui, spoiler alerte, la méritocratie est un mythe. Alors pourquoi on a trouvé ça important de se situer par rapport à nos privilèges ? D'une part, que pour que vous puissiez situer d'où on parle, d'autant plus qu'on est à la radio et que vous ne nous voyez pas. On pense et on fait l'émission en partant de qui on est, nous. Si c'était vous qui la faisiez, elle serait sûrement différente. On se situe dans un souci de transparence. On a nos propres biais, on y travaille, mais ils sont bien là. D'autre part, on s'est situé parce qu'on refuse d'être le neutre. Sûrement que si l'émission n'était portée que par des personnes racisées ou non valides ou issues de milieux populaires, elle se sentirait tenue de le préciser, parce que la norme, elle est blanche, bourgeoise et valide. Et ce sont celles qui diffèrent de cette norme qui sont obligées de le préciser. Avez-vous déjà entendu un homme blanc cisgenre se situer autrement que pour s'en plaindre du « on peut plus rien dire » Non, bah voilà. Et enfin, on est privilégié mais on se bouge. C'est pas parce qu'on est peu concerné par les oppressions systémiques qu'on fait comme si elles n'existaient pas, ou pire, comme si c'était pas notre problème. Même si on ne serait pas les premières cibles du fascisme, on se mobilise, n'hésitez pas à le reproduire chez vous. Aussi, je dois vous avouer un truc. J'ai pas été totalement honnête avec vous quand je me suis située le mois dernier, je sais, pardon. J'ai omis ce qui en réalité sous-tend mon militantisme depuis des années. Oui, je suis une personne blanche qui sort d'une grande école. Mais je suis aussi une personne queer qui vit entourée de personnes queer. Ma famille, mes copaines, la majorité des personnes que j'aime en fait, ne rentrent pas dans le moule gris de la cis-hétéronormativité. En gros, ce sont des personnes qui traversent les frontières du genre, qui aiment et vivent hors du cadre hétéro. Mon existence et la leur est chaque jour menacée. On ne sait pas si on pourra s'aimer, être qui on veut, se marier, fonder des familles encore longtemps. Pour certains et certaines, ce n'est même pas le cas aujourd'hui. On rappelle que la PMA reste fermée aux personnes trans, ce qui est tout bonnement dégueulasse. Alors tout ça, c'est pas un truc que je dis, peut-être même que vous sentez que je suis pas méga à l'aise, que je tourne autour du pot et que c'est pas clair. Dans la vie, je le dis pas, je l'ai presque jamais dit, je l'ai toujours sous-entendu ou fait deviner. Mais alors pourquoi me lancer dans un coming out sur le 92 FM ? Eh ben parce que les questions queer sont partout, qu'il y en a marre qu'elles ne soient pas adressées et que c'est politiquement important de les visibiliser. Donc oui, je vous l'annonce, le lobby LGBT a incrusté jusqu'à cette émission et on va en parler. On va questionner l'homophobie et la transphobie, on va décortiquer nos biais de genre et ça va être trop bien.
Merci Céleste. Je suis vraiment hyper touchée que tu te livres ici parce que je me suis rendu compte que cette question des privilèges me pousse aussi à devoir me dévoiler, ou révéler mon intimité et je suis pas forcément hyper à l'aise avec ça. Je suis clairement une femme métisse et pas mie, non, pas à moitié. Puisque je porte toutes les ambiguïtés auxquelles ça nous renvoie. Devoir se définir de manière rigide n'a aucun sens pour moi, puisque je me vois plutôt comme une sorte de fluide aux racines multiples. Et oui, ma santé mentale, qui n'a pas toujours été valide, a été un réel combat à mener pour répondre à mes besoins psychiques et physiques. Se décrire en fonction de cette roue des privilèges peut très vite être déstabilisant par rapport à ce que ça demande, d'engagement sur l'intime. Ça peut nous pousser à nous révéler, et nous exposer quand on n'est pas forcément prêt. Et oui, peut-être que ça aussi, c'est un privilège, mais ça reste aussi de la survie aujourd'hui. Mais, puisqu'il y a un mais, j'ai aussi compris avec vous d'où venait ce besoin qui pousse, au fond, à avoir un regard sur soi, une sorte de miroir qu'on se tend pour faire le point sur nos privilèges ou non. J'ai le sentiment que cette roue des privilèges touche à la question de quelle place nous a été donnée ou imposée dans une société et nous permet de réfléchir sur comment la prendre. Alors oui, l'étalage des privilèges, je trouve ça contre-productif, mais en avoir conscience, oui. Se sentir coupable, non. Se sentir responsable à son échelle, oui. Parce que se sentir coupable, c'est un sentiment qui est centré sur soi, et lorsqu'on n'est sur aucune position de pouvoir, c'est s'enterrer sous une tonne de sentiments d'impuissance et se couper de là où les personnes avec qui on vit, dans nos quartiers, dans nos villes, oserais-je dire, notre pays, oui, trop tard, c'est dit. Alors que se sentir responsable à son échelle, c'est chercher des moyens d'action que l'on peut mener dans son quotidien, dans son travail, dans ses liens, pour essayer de rendre cette société plus juste.
Merci. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Merci pour votre confiance. Pour cette première émission, on a choisi de s'atteler à un gros dossier et de se pencher avec nos invités sur trois des points définis par Umberto Eco et la façon dont on peut les ranger définitivement au placard, comme mon costume un peu raté d'Halloween 2004 que je n'oserai plus jamais ressortir. Céleste, est-ce que tu veux bien nous guider dans l'émission de ce midi ?
Avec plaisir. Vous vous souvenez, dans l'émission de la semaine dernière, on vous parlait du chercheur Umberto Eco et de ses 14 points qu'il a définis pour reconnaître le fascisme. Ils vont être notre fil rouge dans l'émission cette année. On prend un ou plusieurs points qui indiquent une glissée vers un régime fasciste, on le décortique, on l'inspecte et on donne la parole à des personnes qui le combattent dans leur quotidien. Pour l'émission d'aujourd'hui, on a choisi de s'atteler à trois points. Un des points qui, selon Eco, alerte sur le risque fasciste, c'est le fait de détester la diversité. Le fascisme, je cite, « croit et cherche le consensus en exploitant et exacerbant la peur de la différence. Il est donc raciste par définition. »
Alors, pardon, moi j'ai une question. Il y a plein de racistes au gouvernement. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà glissé dans le fascisme ?
Alors, il existe en effet des lois et des dispositions racistes qui ont échappé au contrôle des institutions. La loi Asile-Immigration de 2024, la loi antiséparatiste de 2021, la séculaire Abaya de 2023, etc. On voit clairement glissement vers un truc pas hyper fun. Est-ce qu'on est déjà dans le fascisme ? Est-ce que c'est le début, le milieu du glissement ? Finalement, on n'a pas besoin de répondre à cette question pour se dire qu'il est temps qu'on se bouge. On ne va pas attendre qu'un gouvernement se revendique explicitement fasciste pour commencer à lutter. À ce point, nous, dans l'équipe, on rattache aussi le fait que le fascisme se fonde sur un récit nationaliste du faire peuple. Petit cocktail nationalisme xénophobe qui ne nous est pas totalement étranger. Je pense notamment au petit délire « Nos ancêtres les Gaulois » qui passe sous silence tout ce qui n'est pas homme, c'est genre et blanc. Enfin, on voudrait aussi aborder le fait qu'un régime fasciste, selon Eco, n'admet aucune nuance, aucune critique du discours qu'il a imposé.
Tu peux donner un exemple ?
Bien sûr ! Par exemple, des historiens officiels ont décrété un jour que tel fait s'était passé comme ça. Et ça devient vérité. Si des gens viennent remettre en question ce discours, en pointant les impensés, ils et elles seront tout de suite considérés comme suspects ou suspectes. Dans un régime fasciste, on ne questionne pas, on ne déconstruit pas les idées ou les récits imposés par les institutions.
Question pour vous d'ailleurs qui nous écoutez chez vous. Êtes-vous des méchantes et méchants islamo-gauchistes? Des dangereux wokistes? Est-ce qu'à cause de vous, on ne peut plus rien dire? Est-ce que vous aussi vous gâchez l'ambiance en soirée? Bravo, vous êtes antifasciste.
Donc le fascisme, on le reconnaît parce qu'il est raciste, nationaliste, xénophobe et qu'il refuse la critique. C'est marrant, ça me fait penser à 2-3 gars qu'on voit beaucoup à la télé en ce moment. Mais c'est pas d'eux dont on va parler aujourd'hui. Non. Nous, au contraire, on veut donner la parole à des personnes qui luttent contre tout ça. Et aujourd'hui, à CMO Toutex, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Peter et Erika, membres du Cercle du Marronnage, un des collectifs décolonial nantais. Bonjour Peter.
Bonjour.
Alors Peter, tu es comédien, auteur, metteur en scène et activiste. Tu utilises le théâtre et le spectacle pour raconter l'histoire telle qu'elle ne nous l'est pas apprise à l'école, pour nous présenter des personnages passionnants et nous questionner sur notre rapport au passé, notamment au passé colonial de Nantes. Et à tes côtés, nous accueillons Erika. Bonjour Erika.
Bonjour.
Erika, tu nous as dit « Je suis une mère au foyer toute simple qui s'intéresse à l'histoire de chez elle ». Et en réalité, tu écris, tu travailles avec des historiens, des philosophes pour déterrer, comprendre, vulgariser et partager l'histoire de ton territoire, la Guadeloupe. Vous êtes membre du Cercle du Marronnage. Un marron, c'est quoi? C'est le nom donné à un esclave qui s'est libéré, une personne qui a brisé ses chaînes. Les marrons et marronnes fuyaient les plantations où elles étaient esclaves et se retrouvaient pour penser, s'organiser et souvent libérer d'autres personnes et refonder des sociétés entières. Les marrons et marronnes sont des résistants, des révolutionnaires. Elles ont élaboré et transmis des théories humanistes et démocratiques en contradiction avec les institutions racistes et coloniales des États européens. Le Cercle du Marronnage reprend à son compte cet horizon. Ses membres questionnent le récit colonial du « commerce triangulaire », c'est le retour des R guillemets, réinsufflent le souffle révolutionnaire des révoltes d'esclaves dans un récit lissé et institutionnalisé de « la France a aboli l'esclavage dans sa grande bonté », le tout s'étant joué entre grands hommes blancs éclairés par la philosophie des Lumières. D'après vous, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, et même que le temps des colonies n'est pas réellement derrière nous.
Merde, attends, t'as cité du Sardou. Vite, faut annuler. Vous avez quoi?
Barbabarbouch, Anne Sylvestre, les vulves assassines.
Ok, c'est bon, merci, on a rééquilibré. Céleste, tu peux continuer.
Mais attendez, est-ce que nos invités ne seraient pas en train de critiquer, de nuancer le récit national? Tout ce travail de mise en scène, de vulgarisation des théories décoloniales et antiracistes pour que tout le monde puisse se saisir de ces enjeux et développer sa pensée critique, est-ce que ce ne serait pas une super bonne idée pour lutter contre un fascisme raciste, nationaliste, xénophobe, allergique à la critique?
Mais quel hasard incroyable! Et non, c'est un piège, le hasard, ça n'existe pas. Si Peter et Erika sont avec nous aujourd'hui, c'est justement pour parler de lutte antiraciste et décoloniale. Pour nous raconter comment ils et elles font le lien entre le risque de fascisme et l'héritage colonial. Et pour nous montrer comment questionner les récits imposés et apporter de la nuance, ce n'est pas dangereux, mais au contraire, c'est une super bonne idée pour faire du lien et lutter contre les perceptions racistes de l'histoire et du monde.
Hop là, attendez, juste avant, on va créer du suspense encore mieux que dans une série Netflix et vous proposer de vous ambiancer en écoutant Chez moi de Kazé avant que l'interview ne commence.
Le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellier et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum? La tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines. Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent. Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine à se trémousser sur un tube de zouk machine. Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs, et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on prie avec la Bible, faites le carnaval comme toute la Caraïbe, que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc, et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent case en tôle tous les vêtements. Sais-tu, comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne. Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime. Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies. Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
Vous êtes de retour sur Prune 92 FM dans Siamo Toutex, l'émission où on explore l'antifascisme pour tous, tous les premiers samedis du mois. Aujourd'hui, on reçoit Erika et Peter, deux membres du Cercle du Marronnage, qui viennent déconstruire le récit colonial sur la traite, l'abolition de l'esclavage et critiquer les résidus encore persistants de ce système en France et en Outre-mer.
On vous propose de prendre le temps d'échanger avec Erika et Peter sur la question du racisme, de son rapport au fascisme, de comment tout ça n'est pas seulement un sujet de dissertation de philosophie politique, mais bien un système qui impacte nos vies ici en Hexagone, en Outre-mer, mais aussi dans tous les territoires colonisés puis néocolonisés par la France. Alors, est-ce que Peter, tu peux nous raconter ce qui a motivé la création du collectif il y a maintenant 10 ans ?
Le cercle du marronnage, en fait, c'est tout un processus qui nous emmène à ce regroupement. Je peux dire qu'on est parti de... partant de 2006. Janvier 2006, l'ancien chef d'État, Jacques Chirac, à l'époque, après avoir consulté un certain nombre de personnes faisant partie d'un comité qui s'appelle le Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Alors juste en termes d'historique, comme ça, en 2001, il y a une loi, c'est la loi Taubira, qui criminalise, qui qualifie l'esclavage et la traite de crimes contre l'humanité. Et de là est mis en place un collectif pour faire vivre cette loi et proposer une date pour commémorer l'abolition, les résistances, voilà. Donc 2006, l'annonce est faite en janvier et arrive donc une toute première commémoration, voilà, qui devrait prendre une autre dimension. Et là, en fait, nous, on se décide de mettre en place une action qu'on a intitulée « La marche des esclaves ». Pourquoi ? Parce que auparavant, en 1998, par exemple, l'année du 150e anniversaire de la deuxième abolition de l'esclavage, ce qu'on appelle la deuxième abolition de l'esclavage, toutes les communications étaient basées plus sur les abolitionnistes, et plus particulièrement les abolitionnistes blancs, et plus particulièrement Scholcher. Hein, d'où une passerelle Scholcher ici, des statues Scholcher par-ci, par-là et tout. Et donc, pour nous, c'était très, très important, sachant que la date du 10 mai allait correspondait à la première commémoration, de mettre en place une action la veille, qui consistait à dire que nous allons parler de l'abolition de quoi ? Du crime. Et donc, on montrait justement, à travers cette fresque, cette marche, les images de ce qu'on pouvait imaginer, plus ou moins. Ça n'a rien à voir avec les films d'Hollywood, hein. C'était du brut. Et donc, c'est une action qui est un petit peu gênée. Et donc, c'est partant de cette action-là que nous sommes rentrés dans un processus, pas tant pour s'opposer à ce qui allait se passer, mais pour apporter un complément. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas célébrer l'abolition de quelque chose dont on ne parle pas. Et pour cela, nous avons mis en place un premier collectif qui s'appelait Passerelle Noire, pour aussi faire le pont entre les populations des Caraïbes et de l'Afrique, parce que pendant très longtemps, l'histoire a été racontée sous le prisme des Africains qui ont vendu des Antillais, comme si l'Antillais existe. En fait, l'Antillais est une fabrication, il n'y a pas d'esclave, c'est un être humain réduit en esclavage. Et donc, c'était important pour nous de marquer ce temps avec Passerelle Noire.
Peut-être que, Erika, tu peux présenter ton travail à toi, voilà. Au sein du Cercle du Marronnage. Quelles actions, toi, tu mets en place? Comment tu travailles?
Bonjour. Déjà, j'ai rencontré le Cercle du Marronnage lors d'une manifestation, la première fois que j'ai assisté à une manifestation. Je crois que c'était une Guetta Haïti.
Le 4 février 2024.
Exactement. Et j'ai rencontré en fait Nathalie, qui était déjà membre du Cercle, dans une conférence et un débat organisé par Madame qui a fait la grève là, aux hôtels Ibis.
C'est Rachel Keke.
Rachel Keke. Donc il fallait absolument que j'aille voir le documentaire de Rachel Keke. Donc j'y étais avec mon fils. Et à un moment, il y a des questions dans la salle et je me lève et j'interviens. Et je dis à Rachel Keke que cette lutte des femmes qui sont dans cette position de soumission parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont dépendantes du travail qu'elles font, donc il y a un chantage, et qu'elles ont osé se soulever et imposer leurs droits, c'est une lutte que nous connaissons en Guadeloupe. Parce que j'ai parlé à ce moment-là des femmes dockers de Pointe-à-Pitre et j'ai parlé aussi d'une figure chez nous qui s'appelle Gertie Archimède. Et là, j'avais Nathalie à ma gauche qui est restée saisie de mon intervention. Et tout de suite, elle a pris mes coordonnées, m'a dit « non, il faut qu'on se revoie », etc. Et elle m'invite donc à la manifestation de février. Et je vois en fait se mouvoir les membres du Cercle du Marronnage et j'assiste à cette manifestation In Guetta Haïti. Et tout de suite, j'ai plein de questions qui me viennent et je sens que j'ai des choses à dire. Beaucoup de choses à dire parce que ça boue tout de suite à l'intérieur de moi. On parle de mon pays, on parle de nous et je ne comprends pas. En fait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et tout de suite, dès que je suis contactée après par Nathalie et par Peter qui me disent « oui, mais on a senti qu'il y avait une frustration, qu'il y avait quelque chose, que tu voulais dire quelque chose », j'ai dit « ok ». Ils m'ont embarquée, puis j'y suis allée, j'ai commencé à écrire et j'ai participé à une première manifestation avec eux en mai, début mai. Et du coup, je n'ai pas lâché après parce qu'en fait, en tant que mère de famille, en tant que cantillaise, en tant que Guadeloupéenne, Caraïbéenne, afro-descendante, on est militant. On est militant parce qu'on est dans un contexte particulier et on doit tout expliquer parce qu'on doit passer le flambeau. On doit briller soi-même en militance parce qu'on porte un combat qui est séculaire, un combat qui a débuté au XVIe siècle. On ne doit pas lâcher. Et on doit transmettre ce combat-là aux générations futures. Et pour ça, il faut qu'on soit au clair avec soi-même, parce que il y a des récupérations, il y a plein de choses qui se font. Donc, on doit faire le point avec soi-même. On doit suffisamment se cultiver, suffisamment se confronter pour ne pas tomber dans les différents écueils, etc., à la facilité. On doit questionner cette histoire-là et on doit transmettre le combat. Et en fait, dans le cercle du marronnage, j'ai l'occasion de faire ça et je ne m'en prive pas.
Et pour vous, du coup, est-ce qu'il y a un lien à faire entre le système colonial, l'esclavage et le fascisme? Et si oui, lequel?
Oui, en fait, moi je pense que pour aborder la question du fascisme en questionnant les rapports qu'entretient la France avec ses anciennes colonies et, aussi avec les départements et territoires d'outre-mer, il me semble que se référer aux écrits de Umberto Eco concernant la définition du fascisme ne suffit pas. C'est une question qui avait déjà été traitée par Aimé Césaire dans le fameux discours sur le colonialisme. Il est une de mes boussoles pour naviguer dans cette histoire commune et pour comprendre les événements contemporains. Umberto Eco parle du fascisme qu'il connaît, le fascisme italien. Cependant, l'Italie n'a pas été une grande puissance coloniale. Il ne peut pas aborder un aspect qui échappe totalement à la réalité historique et sociétale italienne. Aimé Césaire, même si son discours a été publié en juin 1950, il est pertinent, puisque depuis cette date, rien n'a vraiment bougé et ses propos sont très actuels. Ce discours n'est pas assez enseigné et questionné. Il faudrait le populariser. Il dit tout sur le fascisme et il invite à un questionnement profond de tout le système capitaliste européen. Il aborde des questions humanistes, il explique des mécanismes qui conduisent au fascisme en Europe. Il appelle cela le choc en retour. Quelque chose qui a été créé par vos sociétés, qui a été expérimenté sur des terres lointaines, et qui parfois, lorsque vos populations ont des revendications communes avec les populations dites indigènes, vous revient comme un boomerang sous le nom de fascisme. Et c'est parce que vous connaissez mal votre histoire dans sa réalité globale, parce que vous avez fermé les yeux sur ce qui est pratiqué en votre nom par vos gouvernements successifs et vos élites capitalistes, que le mécanisme qui n'a jamais été réformé dans le fond se répète et vous revient par période.
Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu nous avais raconté l'autre jour sur le fait que, pour toi, l'esclavage, le régime colonial, c'est le fascisme à son paroxysme dans sa dimension économique?
Alors, je peux l'expliquer, je peux le préciser, et puis Aimé Césaire ne s'en prive pas non plus, parce qu'il définit ça très très bien. On va parler du colonialisme, il est vu par Aimé Césaire comme l'origine du capitalisme mondialisé. Il en constitue la base, il partage bien des attributs avec le fascisme. Le mythe civilisationnel et la création du héros européen. La justification, c'est une mission civilisatrice qui passe par l'apport d'une religion, un modèle sociétal et la création d'un modèle économique censé guider les peuples conquis vers la civilisation. Donc, tout ce qui vient d'Europe est supérieur. Et donc, ça induit la hiérarchisation de ce qu'ils créent comme race, puisque c'est eux qui créent la notion de race. L'Africain ne s'est jamais défini comme noir avant ça. L'Indien non plus ne se dit pas rouge. Ce sont des créations. Donc, il va créer l'inégalité des races, des cultes et des cultures et des civilisations. Il va hiérarchiser les populations et il va prétendre que c'est la volonté de Dieu pour se légitimer. Ensuite, vous avez l'accaparement des terres. Les indigènes étant inférieurs, ils sont indignes de posséder les terres sur lesquelles ils vivent. Ça se mérite. Seuls ceux qui peuvent les valoriser et en tirer profit les méritent. Voilà pourquoi les colons disent souvent que les terres qu'ils prennent sont vides. En fait, elles sont vides d'exploitation à outrance. Ensuite arrive le prétexte racial qui va cristalliser le mythe du dominant par nature. C'est Sylvie Laurent qui écrit « Il n'y a pas de capitalisme sans racisme » dans son ouvrage « Capital et race ». Donc, j'ai écouté son intervention sur Blast, je crois, la semaine dernière. C'était très, très, très bien. Elle et Aimé Césaire se rejoignent tous deux et rejoignent aussi la pensée de Karl Marx qui disait « C'est l'esclavage qui a donné de la valeur aux colonies. Ce sont les colonies qui ont créé le commerce du monde et c'est le commerce du monde qui est la condition nécessaire de la grande industrie mécanique. »
Merci beaucoup. Donc on voit bien le lien donc, que Umberto Eco fait, mais que Aimé Césaire prend aussi comme point central de ses travaux. Le lien qu'on pouvait tisser et qu'on peut encore tisser entre fascisme et racisme, que l'un ne va pas sur l'autre, que l'un alimente l'autre, le justifie. Donc ça, c'est pour le point qui concernait le racisme. On a aussi relié votre travail au fait que le fascisme refuse la critique, qu'il refuse l'analyse. Et vous, en fait, c'est ce que tu disais, Peter, tout à l'heure, vous questionnez le discours institutionnel, notamment celui de Nantes, tout le discours qui a été fait sur le passé colonial, mais tu l'as précisé, vous ne tombez pas non plus dans le « tout est mauvais, tout est à jeter, ils ont tout mal compris ». Vous êtes dans la nuance. Est-ce que tu peux nous préciser cette position du cercle ?
Ben, la nuance, c'est de restituer la vérité. C'est-à-dire que bon, il y en a qui ont fait le choix, des fois avec certains deals, de ne pas dire les choses. Bien entendu qu'en 2001, lorsque la loi est adoptée, il y a Jean-Marc Ayrault qui, à l'époque, était président du groupe socialiste à l'Assemblée. Donc c'est l'une des personnes qui a joué aussi un rôle clé pour accompagner Christiane Taubira, parce qu'il y a eu pas mal de navettes, pour que la loi soit adoptée. Donc bien entendu, et c'est tout à fait logique que après la chute du PS à l'époque, qu'il puisse hériter aujourd'hui de la Fondation pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Tout à l'heure, j'étais en train de parler justement du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, ce comité qui avait été mis en place, dont la première présidence était avec Maryse Condé sous Jacques Chirac, après Françoise Vergès sous Nicolas Sarkozy, après Myriam Cotia sous François Hollande, et puis à la fin avec Frédéric Reyjean sous Macron. Et après tout ce travail-là, a été mise en place cette fondation pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Donc les nuances sont là, effectivement. On a un maire qui était maire de Saint-Herblain à l'époque, qui, dès 85, il y a eu déjà une tentative d'un colloque sur le tricentenaire du Code noir qui avait été capoté par la pression de la bourgeoisie nantaise. À l'époque, il y avait un maire qui s'appelait Chauty, hein, qu'on appelait sécateur et tout. Et donc, évidemment, que ce Jean-Marc Ayrault, avec son équipe, quand ils arrivent, ils sont les premiers à faire en sorte qu'il y ait une exposition, la première d'ailleurs, en 92, qui voit le jour au château des Ducs de Bretagne. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais arrivé en France. Et je ne sais pas, ce sont les circonstances de hasard qui ont fait que quelqu'un a trouvé ma voix intéressante. Et c'était ma voix qui était en boucle dans cette exposition des Anneaux de la mémoire. Donc, et même en accompagnant cette exposition, effectivement, il y a des textes que je découvrais. Donc j'étais particulièrement un peu naïf. Et donc, évidemment que c'était une superbe opération, mais en même temps, c'était une opération qui avait aussi ses carences, quoi. Donc, voilà, c'est pour nous, quand on aborde cette question des nuances, c'est quoi ? C'est de dire que, oui, bien sûr que lorsqu'on a un mémorial à Nantes, c'est un acte fort, c'est quelque chose d'unique, parce qu'il n'existe, sur le plan architectural, aucun bâtiment de cette taille en Europe. Ça, c'est une réalité. Et même l'audace d'une ville qui aborde, avec les plaques de verre, avec ces expositions nantaises, c'est pas de l'Europe, hein, c'est de Nantes, donc qui assume quelque part. Et puis je faisais un clin d'œil avec l'inscription de la charte du Mandé, qui est une trace de la résistance, mais avec des carences qui sont terribles, terribles, parce que ces plaques de verre sans les noms des armateurs, c'est quand même bizarre, les bateaux n'allaient pas tout seuls. Lorsqu'on a demandé à la SNCF d'indemniser par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, les wagons n'allaient pas tout seuls. Donc voilà, on s'est désigné. Et donc voilà des crimes sans criminels en Europe. Et ça, c'est pas propre à Nantes, mais c'est un peu partout. Donc Nantes, qui se vante aussi d'avancer sur ces terrains-là, doit avoir l'audace d'inscrire dans son mémorial, dans l'exposition, la trace du crime. Parce qu'on ne peut pas célébrer une mémoire sectionnée avec des abolitionnistes sans mettre le texte qui fait dire à la France « on veut l'esclavage ». Et il s'agit juste de restituer la vérité historique et que de cette vérité historique, commencer un travail ensemble qui s'inscrit dans l'angle de la réparation. de la justice réparatrice.
Merci beaucoup pour cette première partie d'interview. On va faire une petite pause musicale avant de reprendre. Et donc tout de suite dans vos oreilles, Tierra de Bomba Estéreo.
Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Secaron los lagos, extinguieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, una patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor.
Pero no.
On est toujours sur Prune dans l'émission Siamo Toutex avec Erika et Peter du Cercle du Marronnage. En première partie d'émission, on a parlé de votre lutte, de ses liens avec la lutte contre le fascisme. Merci d'avoir dynamité le roman national et le système colonial à coups de parpaing. On n'a pas fini cette interview, mais on va continuer dans le lexique du BTP et déboulonner 2-3 trucs. Et Nora, je te laisse te munir de ta meilleure clé à molette pour lancer la chronique culturelle.
Merci Lilia, tu fais bien de parler de clé à molette parce que je viens vous apporter un outil. Depuis le début de cette émission, on parle de faits historiques oblitérés par le récit national et savamment contournés dans les programmes scolaires. Et vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en train de vous demander comment combler toutes ces lacunes historiques, par où commencer et à qui faire confiance. Bon, pour ce qui est de savoir à qui faire confiance, on vous répondra toujours de croiser vos sources, mais pour ce qui est de par où commencer, j'ai un petit quelque chose à vous proposer. Le documentaire « Nos statues coloniales », réalisé par Sumboy et Réa Simon de la chaîne YouTube Histoire Crépue. La genèse de ce documentaire, c'est les fortes mobilisations autour du mouvement Black Lives Matter qui ont lieu suite au meurtre de George Floyd aux États-Unis. À ce moment-là, de nombreuses statues coloniales sont déboulonnées par des activistes dans le monde entier, sauf en France métropolitaine. Ce qui amène Sumboy, le réalisateur, à se poser la question : est-ce que la France connaît véritablement l'histoire de ces statues coloniales ? C'est donc à ce manque de connaissances que vient répondre ce documentaire en 4 épisodes de 30 à 40 minutes chacun. Tout est dispo sur YouTube gratuitement. Chaque épisode présente une statue parisienne différente et en retrace l'histoire grâce aux interventions de plusieurs spécialistes invités. Jacqueline Lalouette, historienne spécialiste des statues françaises, Françoise Vergès, théoricienne féministe décoloniale et antiraciste, Pascal Blanchard, historien spécialiste de l'Empire colonial français, et Catherine Kokri-Vidrovitch, historienne spécialiste de l'Afrique subsaharienne. J'ai particulièrement apprécié le troisième épisode qui parle du monument à la mission marchand. Sumboy s'appuie sur cette statue pour raconter cette fameuse expédition Congo-Nil qu'elle représente, menée par Jean-Baptiste Marchand, dont l'objectif était pour les colons français de doubler les Anglais pour arriver à Fashoda en premier, en traversant le continent africain en diagonale. On apprend que cette mission a duré 3 ans et a été particulièrement meurtrière pour les centaines de tirailleurs sénégalais et les milliers de porteurs indigènes enrôlés pour accompagner les 12 blancs qui menaient cette expédition. Vous avez bien entendu, 12 blancs pour des milliers de porteurs noirs. C'est que les colons français y font dans l'expédition all-inclusive. Les archives listent des milliers de bouteilles de vin, de cognac, de champagne, de la choucroute et du foie gras. On est bien loin de la figure de l'aventurier à la Indiana Jones. Le méchant dans Pocahontas est déjà plus réaliste. On parle donc d'un monument érigé, implanté en plein Paris, aux yeux de tous, qui célèbre une histoire de pillage de villages africains, de razzia, de massacres pour mater les locaux qui auraient l'outrecuidance de se révolter, dans une guéguerre entre colons sans aucune considération pour les populations affectées. Grâce aux spécialistes interviewés, le documentaire nous permet aussi de comprendre qui sont les commanditaires de ces statues, quels sont les rôles des lobbies coloniaux et du parti colonial, comment ces derniers sont prêts à tordre et déformer l'histoire au fur et à mesure des années pour pouvoir continuer de célébrer leurs héros coloniaux sur la place publique sans trop passer pour de gros racistes. Les expertes interrogées nous parlent aussi de la propagande coloniale, de comment les colons ont construit des récits de toutes pièces pour la population française par des carnets de voyage ou par l'exposition coloniale internationale de 1931. Au-delà de toutes les informations que nous offre ce documentaire, ce que je trouve génial, c'est qu'il nous transmet une appétence pour ces pans de l'histoire qu'on nous a cachés. Sumboy et ses invités nous transmettent leur passion, leur soif d'apprendre et de transmettre ces récits avec beaucoup d'énergie et ça donne envie de découvrir une nouvelle histoire à laquelle s'identifier.
Merci Enora pour cette super chronique culturelle. Alors comme tu me disais au début, il y a des statues qui ont été déboulonnées en Outre-mer. Et d'ailleurs, depuis quelques semaines en Martinique, les personnes revendiquent un droit à la vie digne et l'accès aux services publics, ce à quoi le gouvernement répond en leur envoyant des CRS par avion. Erika, est-ce que tu veux bien nous montrer comment la situation d'outre-mer, elle pourrait être lue sous le prisme de ce que tu disais tout à l'heure sur le lien entre fascisme et économie coloniale ?
Bien entendu, mais je réagis d'abord sur ce que vient de dire la chroniqueuse qui m'a précédée. Les populations européennes sont comme anesthésiées par de faux récits coloniaux. Ça sert justement à ça, à ne pas éveiller les consciences. Alors, Aimé Césaire dit que d'acceptation en acceptation d'horreur, hein, les Européens sont aliénés et perdent leur humanité. L'éducation qui consacre la hiérarchisation des cultes, des cultures et des êtres humains a fonctionné. Voilà. Les caricatures sont plus digestes. Le mythe du sauvage idiot rend invisibles les luttes des Kanaks, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Africains, des Amérindiens, des peuples asiatiques, océaniens, etc. Alors, M. Sarkozy peut se permettre de dire que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Dans le cas des départements et territoires d'outre-mer, ou autrement dit l'univers carcéral américain, ça, c'est un terme qui a été inventé par Madame Rosa Amelia Plumel-Oribe dans son livre « La férocité blanche ». Elle décrit le phénomène très, très bien. Les grands capitalistes sont directement les héritiers des colons du XVIe siècle, reproduits, attention, en race pure. Ils cochent toutes les cases de la mythologie fasciste. Le culte du self-made man, aventurier, qui a apporté la civilisation et le développement. En face de lui, une populace captive, ignorante et ingrate. Ce sont des fauteurs de troubles. Les manifestants sont accusés d'être manipulés par des puissances étrangères, la Russie, l'Azerbaïdjan, et leurs leaders, bien que minoritaires dans l'opinion publique. Ce sont des casseurs, des terroristes. Leur comportement trouble l'ordre public. Il faut de la fermeté. Vite ! on envoie un avion bourré de CRS. Au lieu d'être considérés par la République comme une population en souffrance, dont il faut défendre les droits fondamentaux, les forces de l'ordre iront directement protéger les intérêts et les biens des béquets. Tant pis pour ceux qui ne peuvent pas se nourrir, boire et vivre dignement. Nous sommes en plein fascisme.
Erika, je t'arrête. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un béquet ?
Un béquet, c'est quelque chose de très très rare. Enfin, j'espère. Ce sont les descendants des colons esclavagistes du XVIe siècle. Ils sont toujours là. Ils détiennent l'économie des îles. Ils ont été remboursés au franc or à la tête de nègres perdus, donc à la tête de bétail perdu par l'État. Et avec cet argent, ils ont pu investir et s'approprier toutes les industries et tous les commerces fondamentaux de l'île. Ils tiennent le port et l'aéroport. Donc, la population est captive. Consommateur captif. Il n'y a pas mieux pour vendre à prix, au prix qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Ils n'ont pas le choix. Ils ont faim. Ils vont acheter. Donc, il s'agit de ça. Consommateur captif, marché captif et des grands entrepreneurs humanistes qui fixent des prix entre 300% et 2000%. Quoi. Voilà. Donc, tant pis pour ceux qui ne peuvent pas se nourrir. Hein. Pour la Kanaki, les Caldoches aussi cochent toutes les cases. Ils sont armés et ont le droit de se constituer en milice. Ils sont protégés par les forces de l'ordre. Cela rappelle les temps de l'Algérie française. Aux Guadeloupéens, cela rappelle mai 67 et aux Martiniquais, février 74. Il y a un apartheid de fait avec la complicité de l'État. Pourtant, nous ne sommes pas en Afrique du Sud. Et Césaire fait le même constat en Inde, en Chine, et il dit qu'après les périodes de répression fasciste en Europe, une fois les guerres terminées, aucun Européen ne tire de leçons de ce qui s'est passé. Au contraire, il retourne tranquillement appliquer les mêmes méthodes anciennes à nouveau sur les peuples, les autres peuples, dans l'indifférence générale. Les peuples des Dômes ont le droit de questionner leur lien avec la nation. Dans ce contexte-là, au bout du colonialisme, derrière le grand capital, dit Aimé Césaire, il y a Hitler. Pareil, moi je dis, au bout de l'impérialisme américain et européen, derrière le colonialisme israélien allié au grand capital, il y a Netanyahou. Le but de tout ceci n'est que financier. Et que financier ? Suivez la piste de l'argent. Vous verrez plus clair.
C'est ton conseil, Erika. Suivons la piste de l'argent. Alors maintenant, Erika et Peter, on aimerait que vous parliez un peu de vous. On a beaucoup parlé de fascisme, on a parlé de théorie politique. Mais maintenant, on a envie de savoir ce que signifie pour vous lutter au quotidien. Qu'est-ce qui, toi, Peter, t'a fait t'engager dans cette lutte, personnellement, en tant qu'individu ?
Ben, en fait, c'est arrivé un peu comme ça. Moi, je suis arrivé dans cette ville de Nantes très jeune. Et puis ben, j'ai été très vite sollicité pour des actions pour aider l'Afrique quoi. Genre action humanitaire et tout. À un moment je me suis interrogé, j'ai dit mais c'est pas possible en fait, lorsque j'additionne le nombre d'associations qui existent pour faire de l'humanitaire en Afrique, mais est-ce que c'est le bon logiciel? Donc voilà, j'ai commencé à compter combien d'associations qui lutte pour le bien du Mali à Nantes. Après, je me suis dit, mais combien il y en a en Loire-Atlantique, en Pays de Loire, en France, dans le monde ? Et je me dis, mais non, il faut qu'on stoppe avec ce logiciel-là. Et de la même manière qu'il faut qu'on stoppe à un moment donné avec le même logiciel qui consiste à aider les Haïtiens, en fait. Et donc, c'était pas un plan dans ma tête. C'est que... ben, je voulais contribuer à ma manière et puis ben, j'ai fait des rencontres qui m'ont emmené jusqu'à ça. Voilà. Et puis certaines injustices sur le fait qu'en 98, j'avais initié à Nantes, en fait, j'avais lancé une compagnie Envers Production de théâtre dont les premières représentations ont eu lieu pas loin d'ici à la salle Paul Fort. Et lorsque nous avions monté la première pièce qui était une comédie, voilà l'histoire d'un homme qui a 12 enfants avec sa femme qui veut un 13e parce qu'au Cameroun, selon l'auteur, tout père de famille de plus de 12 enfants est décoré papa national. Et ce bonhomme, en fait, il voulait juste que sa femme accouche d'une médaille. Et donc, la femme qui va le marabouter, puis l'homme qui se retrouve enceinte, là, ça posait aucun problème. Tout le monde rigolait. Et puis, ben, l'année suivante, on a monté la pièce de Marcel Zang, La danse du pharaon. Et puis, c'est là qu'on a commencé à sentir les pressions venir. Et cette pièce qui était grandement critiquée aussi, même par l'intelligentsia nantaise à l'époque, hein, avec des revues comme Talent 44 et tout ça, et qui n'a plus de critique quelques années plus tard, parce que la pièce a été publiée chez Actes Sud, des années plus tard. Et puis, la même pièce a fait l'objet d'une lecture mise en espace par d'autres personnes à la Comédie Française. Donc, voilà. Et puis, ben, 2000, on initie une semaine théâtrale africaine pour favoriser en fait la mise en valeur des dramaturgies d'Afrique et puis créer un cadre d'échange entre artistes européens et africains. Et voilà, c'est à travers les freins, en fait, ces genres de freins-là, que je suis arrivé un petit peu par hasard, si on peut le dire ainsi.
Merci pour ta réponse, Peter. Et toi, Erika,
est-ce que je suis obligée de réagir sur ce qu'a dit Peter au sujet du déboulonnement du mémorial, etc. Effectivement, en même temps que le Mémorial Act, les béquets de la Guadeloupe ont fait une espèce de collecte de fonds et à grands frais, ils ont fait établir une statue de leur champion, donc chevalier de l'Olivet, chevalier du Plessis, qu'ils voulaient installer en grande pompe, qu'ils ont installé en grande pompe d'ailleurs, sur la plage de Sainte-Rose, là où ils avaient débarqué les premiers habitants, la civilisation, leur prédécesseur. Voilà. Et en fait, le LKP a réuni la population, on a écrasé ça. On a écrasé ça, c'était magnifique. Je me rappelle, j'étais devant la télé, je sautais de joie. Parce qu'en fait, c'est une insulte. Je n'ai pas vu Hitler sur les Champs-Élysées, je n'ai pas vu la statue d'Hitler. Pourquoi est-ce que chevalier de l'Olivet et chevalier du Plessis ayant massacré des milliers de Kalinago, Kalinas, donc les premiers habitants amérindiens, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir leur statut chez nous? Pour nous, c'était une insulte et c'était intolérable. Et ça m'a donné la force de me lever et de commencer à dire non, il faut que je m'engage dans cette lutte-là et parce qu'il faut que j'explique ça à mes enfants et à toutes les générations qui voudront bien entendre. Il faut qu'on puisse le dire pourquoi on est debout. On n'est pas debout parce qu'on est méchant, qu'on déteste les gens et des bêtises. Ou alors, comme dit BFM TV, parce qu'on fait du vaudou. Et même si on fait du vaudou, ce n'est pas leur problème. Donc, voilà pourquoi je défends la convergence des luttes de libération. Parce que c'est une lutte qu'il doit se transmettre. Un combat hérité de nos ancêtres nègres-marrons, des premiers marrons amérindiens jusqu'à nous, de Delgrès et la mulâtresse solitude jusqu'au LKP, de tous nos héros qui nous inspirent jusqu'à nous-mêmes, nous recevrons dignement le flambeau. Sans prise de conscience commune, sans transversalité, sans revisiter l'histoire commune, les Européens sont condamnés à revivre le fascisme. C'est ensemble que l'on doit s'organiser, c'est ensemble que l'on doit repenser notre société. C'est ce travail de transversalité et de témoignage que nous faisons dans le cercle du marronnage. Nous vous invitons à oser regarder, oser poser les vraies questions, oser lire les grands penseurs, même s'ils ne sont pas européens, même s'ils sortent des sentiers battus. Développez votre sens critique, discutez, échangez autour de ce qui est notre héritage et notre passé commun. C'est notre humanité dont il s'agit.
Nous, ce qu'on se pose comme question, tous autour de la table, c'est comment on peut être allié de votre travail. Et qu'est-ce que, du coup, vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient, du coup, être alliés avec, et puis s'engager aussi auprès de vous et auprès de ce que vous défendez?
En trois mots.
Un samedi, le premier samedi du mois, les militants de l'anti-CRA, donc Centre de Rétention Administrative, sont sur la place du Miwando. Venez nous rejoindre nombreux. La plupart du temps, j'y suis. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à nous partager, vous serez les bienvenus, on peut discuter, on aura le temps. Voilà.
Et pour ce qui concerne le cercle du marronnage, comme je disais que ça a été créé en 2014 et nous sommes dans une année un peu où il y a les 4-4-4-4-4. Et donc, ça marque aussi, comme je le disais, les 30 ans de la prestation de serment de Nelson Mandela. Donc, on parle beaucoup de Mandela, mais il faut parler de Winnie Mandela, il faut parler de Dulcy September, cette femme qui a été assassinée à Paris, qui était la représentante de l'ANC ici. Donc, dans le cadre des 10 ans, nous avons marqué un temps, le 8 mai dernier, et donc nous allons marquer un temps au mois de décembre. Donc on est en train d'ajuster un programme qui ne sera pas très lourd, mais en tout cas avec des ateliers, des temps de rencontre où on fera connaissance avec toutes celles et ceux qui le souhaitent. Et puis, ben oui, on aimerait bien avoir un relais de communication parce que, figurez-vous, nous avons choisi le camp le plus compliqué. Et donc, nos communications sont, voilà, sont parfois censurées. Et très souvent, voilà, c'est pas relayé dans certaines presses. Mmh. Et donc, on aimerait vraiment construire ce temps-là, mais qu'il soit aussi un temps de partage de tout le parcours qu'a connu le cercle du marronnage, mais offrir aussi certains fichiers.
Donc, si on résume, on vous retrouve dans les actions, les manifestations que vous organisez, vous. On vient vous poser des questions, on se questionne, on questionne nos sources, on questionne les grands personnages de l'histoire, on se renseigne, on lit des bouquins passionnants. Et ce sera déjà un bon début pour être allié de votre cause.
Et n'abandonnez jamais votre sens critique. Hmm.
Mmh. Merci. Merci beaucoup.
Mettez-nous en difficulté. N'hésitez pas à nous mettre en difficulté. N'hésitez surtout pas. Voilà.
Merci beaucoup, Erika et Peter, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était passionnant, c'était puissant de vous avoir dans l'émission. Ça nous a permis de creuser et préciser ce lien entre racisme et fascisme, mais aussi de percevoir davantage que la vulgarisation, l'esprit critique, le questionnement des dogmes et des idées reçues nourrissent le débat, le vivre ensemble et permettent de lutter contre les idées du fascisme. Merci de vous être prêté à l'exercice et d'avoir accepté de nous parler de vous. On a pu entendre que votre lutte est presque une partie de vous, qu'elle est fortement liée à qui vous êtes, à votre héritage et à la vision du monde que vous souhaitez défendre. Ça nous a donné plein de raisons d'être en colère, mais aussi plein de clés de lecture et d'action pour vous rejoindre dans cette lutte antiraciste et décoloniale. On en profite d'ailleurs pour rappeler aux auditeuristes que sur la page de l'émission sur prune.net, vous pourrez trouver des ressources pour approfondir les points abordés pendant l'émission. Encore merci, Erika et Peter, merci et merci beaucoup. À vous chez vous d'avoir passé cette heure avec nous.
Avec plaisir.
On vous dit à dans un mois sur Prune.
Salut,
à bientôt.
À bientôt.